Le monde au féminin.
Hey you, over there, please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
En Afghanistan, les femmes employées de la chaîne de télévision Anycast TV à Jalalabad ont été contraintes d'arrêter de travailler après l'assassinat de trois de leurs collègues le 2 mars et d'une présentatrice en décembre. Ces meurtres ont été revendiqués par le groupe État islamique. Le directeur de la chaîne, Zalma El Latifi, justifie cette mise à l'écart des femmes par le fait qu'il n'y aurait aucun moyen de les protéger et il a même décidé de ne plus en embaucher. Sur 10 femmes qu'employait Anycast, 4 ont été tuées, dont la présentatrice Malala et Maewand, abattue avec son chauffeur. Les 3 autres, âgées de 18 à 20 ans, avaient récemment terminé leurs études secondaires et travaillaient dans la section doublage. Mursal, Sadia et Shanaz ont été tuées en rentrant chez elles. Par ailleurs, en janvier, 2 femmes juges de la Cour suprême ont été abattues à Kaboul. 300 femmes ont démissionné ou perdu leurs emplois en 6 mois, selon le Comité pour la protection des journalistes afghans. En Afghanistan, 14 provinces ne comptent pas une seule journaliste ou femme employée par un média. En Russie, la Banque d'État Sber a lancé une initiative visant à attribuer le nom de femmes distinguées à de nouvelles rues. Intitulé In the Name of Women, le projet vise à diffuser des informations sur les femmes russes qui ont apporté une contribution importante à la science, l'art, l'éducation, au sport et à d'autres domaines. De nombreuses femmes célèbres ont déjà été immortalisées dans les noms de rues en Russie. Moscou comporte des rues portant le nom de la mathématicienne Sofia Kovalevskaya, la sculptrice Vera Mukhina, la poétesse Anna Akhmatova, la chanteuse d'opéra Galina Vishnevskaya, des pilotes Valentina Grizo-Dubova et Marina Raskova, ainsi que des rues portant le nom de femmes politiques et héros de guerre. L'institution financière a créé un site web sur lequel les Russes peuvent voter pour une femme célèbre ou suggérer une candidature qui ne figure pas sur la liste. En Grande-Bretagne, Suella Braverman est devenue la première femme du gouvernement à pouvoir prendre un congé maternité tout en conservant son poste grâce à une nouvelle loi le permettant. La conseillère juridique du gouvernement va être remplacée pour 6 mois par un adjoint sans perdre son salaire. Saluant un moment marquant, Madame Braverman, qui attend son 2e enfant, a exprimé son enthousiasme à l'idée de faire partie de l'histoire et a estimé qu'il s'agissait là d'un message pour les femmes qui voudraient faire carrière en politique. La précédente loi, obsolète, de l'aveu même de la primature, l'aurait contrainte à quitter son poste si elle souhaitait prendre un congé maternité après la naissance de son enfant.
Parole de femme.
deux Africaines francophones sont parmi les lauréates du prix Femmes de Courage 2021 du département d'État américain, la Congolaise Julienne Lusenge et la Camerounaise Maximilienne Ngombe, qui dirigent le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. À travers son association, le REDAC, Madame Ngombe documente et dénonce des exactions commises par les séparatistes et les forces de sécurité camerounaises dans les régions anglophones. Jointe à Douala, elle nous livre d'abord sa réaction sur cette prestigieuse récompense.
Ma réaction, elle est d'abord une réaction de fierté, d'humilité aussi, mais en même temps une réaction de peur. Parce que le département d'État américain qui m'a primé, je pense que c'est une lourde charge qu'il m'a mise encore sur les épaules, lourde responsabilité. Quand je regarde l'étendue de travail au niveau du Cameroun en particulier, dans les pays de l'Afrique centrale en général, est-ce que je pourrais? Tous les écrans sont braqués sur cette femme courage depuis que j'ai eu ce prix, des plaintes s'accumulent. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc, comme j'ai dit, je dédie ce prix à tous les défenseurs et surtout aux défenseurs femmes qui sont décédées, qui ont été assassinées et certaines qui sont en prison, qui ne peuvent pas sortir. Le travail est énorme. Nous sommes dans des pays où les chefs de l'État ont une longévité assez criarde au pouvoir. Et nous voyons très bien que l'espace civique est un espace qui est fermé et l'utilisation des tribunaux militaires pour juger les civils, les guerres, même fratricides comme celle au nord ou au sud, où on n'arrive pas à trouver une solution de réconciliation, de négociation. Les victimes de part et d'autre, oui, j'ai peur.
Qu'en est-il justement de la situation dans votre pays, le Cameroun, notamment la crise anglophone? Pourquoi, selon vous, cette crise ne s'arrange pas jusqu'ici?
La situation au niveau du nord-ouest sud-ouest aujourd'hui est très alarmante. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'il y ait des exactions commises par toutes les parties prenantes, que ce soit du côté des séparatistes, que ce soit du côté des forces de sécurité. Et la jeune fille et la femme, aujourd'hui, sont dans une situation assez particulière parce que le viol est utilisé comme une arme de guerre aujourd'hui. Et on est arrivé à cette étape-là. Donc, l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui au niveau du nord-ouest, sud-ouest, cette étape franchie devient une étape assez préoccupante. Les arrestations se comptent par milliers. Je viens d'être saisie encore aujourd'hui de l'arrestation d'une jeune fille de 14 ans qui est à la prison centrale de Douala depuis 2 semaines. On lui reproche d'être entre guillemets embasonnée et qui dort sur le sol à la prison et qui a été violée et serait enceinte. Et je suis convaincue qu'il y a d'autres que nous n'avons pas à notre portée. Et notre approche, c'est de documenter, vérifier et dénoncer cet état de choses. De réfléchir comment accompagner des victimes sur le plan, n'est-ce pas, au moins juridique, psychologique et même sur le plan matériel. D'autre chose, c'est de réfléchir sur une solution globale. Et c'est depuis 2017 que nous avons élaboré une proposition qui est la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, où on va voir là les négociations. Nous félicitons toutes les négociations qui ont pu, n'est-ce pas, émerger. Mais nous disons que, au vu de la situation actuelle, nous ne pouvons plus rester à ce stade-là. Il faut que les partenaires et les pays amis urgent l'État du Cameroun à accepter une mission d'établissement de faits indépendants et impartiales et internationales. Parce que c'est cette mission-là qui va révéler quelles sont les responsabilités de X et Y. Et après cette mission-là, et pour nous avons même allé jusqu'à proposer, mais qu'ils aillent faire la négociation au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Et puis après, qu'on s'asseye pour mettre en place en œuvre la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Que chacun sache les commanditaires, que chacun voit ce qu'il a fait pour détruire, n'est-ce pas, des vies humaines. Pour nous, la justice, elle est sur 2 étapes. La justice pénale ou civile et la justice transitionnelle. De plus en plus, on fait arrêter des exécutants, on leur donne 10 ans dans des procès à huis clos que nous ne pouvons pas observer. Et les commanditaires capitaine dans l'ordre, continuent, n'est-ce pas, à mettre en place leur stratégie pour perpétuer, n'est-ce pas, les exactions. Et après, pour nous, il faut réparer psychologiquement, il faut réparer physiquement, il faut réparer matériellement, et maintenant, il faut reconstruire un état de valeur, un état de droit, un état où il y a la justice pour tous, où on peut parler de la forme d'État, que chacun donne son avis et qu'ensemble, on prend ce qui nous convient tous. Voilà le package et le sens de notre lutte pour les prochaines années.
Votre association, le REDAC, lutte également pour les droits humains dans toute la région. Pourriez-vous nous dresser un bref état des lieux des droits humains en Afrique centrale ?
Les droits de l'homme en Afrique centrale, je voulais le dire, c'est une problématique assez difficile. Il faut dire que le réseau de défenseurs des droits humains, nous ne couvrons pas le Burundi et le Rwanda. Mais lorsque vous partez en RCA, vous allez voir très bien qu'au-delà de la situation conflictuelle, on peut quand même féliciter le gouvernement Touadéra qui a, avec la société civile, donc le RIDAC, accepté notre proposition pour aller signer l'accord de paix et aujourd'hui sont dans le processus de mise en place de la Commission de justice et réconciliation. Au niveau de la RCA, il n'y a pas une volonté politique à restreindre l'espace civil. Ils sont en point à des guerres civiles interminables et aujourd'hui au moins nous pouvons nous féliciter que de plus en plus on sait qui fait quoi. Donc c'est un bon exemple. Maintenant, quand vous allez dans les pays où les présidents ont plus de 30 ans au pouvoir, comme le Congo-Brazzaville où on va y aller, d'ailleurs, bientôt aux élections, vous allez constater que l'espace civique est fermé. Ses opposants ne peuvent plus parler. On prend tout le monde, on met en prison. Le Tchad, pareil. La Guinée équatoriale. Pratiquement tous les défenseurs des droits humains en Guinée équatoriale sont en exil. Donc, on n'a plus des représentants en Guinée équatoriale. Le Tchad, vous avez vu un président qui s'est autoproclamé maréchal. Avec tout ce que cela comporte aujourd'hui, la situation politique, les opposants politiques, les défenseurs des droits humains. Vous allez en RDC, malgré la petite bonne foi qu'on pouvait accorder, qu'on pourrait discuter autour, mais vous voyez très bien que les violations des droits humains ont repris, surtout dans les zones où il y a des conflits, et la liberté de la presse. On sent que l'Afrique centrale est la région la plus répressive en matière, n'est-ce pas, des droits civils et politiques. L'Afrique centrale est la plus fermée sur les questions des institutions démocratiques. L'Afrique centrale est fermée sur la protection des défenseurs. À l'Afrique de l'Ouest, il y a plus de 5 pays qui ont adopté la loi portant protection des défenseurs. Ou en Afrique centrale, aucun pays, malgré tous les efforts de plaidoyer que nous avons fait, aucun pays n'a adopté cette loi-là.
Maximilienne Ngombe, présidente du REDAC, était jointe à Douala au Cameroun. J'ai également contacté en République démocratique du Congo Julienne Lusenge, l'autre lauréate africaine francophone du prix Femmes de Courage 2021 du département d'État américain. Madame Lusenge a notamment été récompensée pour la promotion des droits des femmes et des filles dans les situations de conflit, en particulier dans l'est de la RDC.
Je suis honorée d'être parmi les lauréates de ce prix, et pas seulement moi, toutes les femmes avec qui je travaille et toutes les femmes de la région se sentent honorées par ce prix. Et c'est pour nous un grand honneur parce que le département d'État a nous donné ce prix. Nous pensons qu'ils ont compris la situation dans laquelle nous vivons à l'est de la RDC. Et que maintenant, ils vont quand même attirer, ça va attirer leur attention pour aider que la paix se rétablisse.
Les groupes armés sont très actifs, hein, plus que jamais, notamment les ADF Nalou, entre autres groupes armés. Qu'en est-il de la situation des populations dans cette région?
La situation se détériore chaque jour. Il y a les déplacements massifs de la population. Il y a les gens qui passent des nuits dans les salles de classe et doivent se déplacer le matin pour quitter les salles de classe. Et puis le soir, les enfants partis, les gens reviennent dans les salles de classe pour dormir. Donc, il y a des déplacés forcés perpétuels, chaque jour. Il y a des gens qui sont égorgés, beaucoup d'orphelins, des jeunes femmes qui sont restées veuves avec beaucoup d'enfants, et leurs propres enfants et les enfants des voisins, mais sans ressources, ils n'ont rien à donner, rien à manger. La population est très affectée par la pauvreté. Il y a plus la nourriture à Béni. Nous mangeons maintenant les haricots qui viennent de l'Ouganda. Mais aujourd'hui, on lui empêche d'accéder aux champs, donc on lui empêche ces moyens de subsistance. C'est vraiment une situation de pauvreté qu'on ne peut pas décrire. La population est dans la vulnérabilité la plus totale. La sécurité va son plein. On incendie la maison, les hôpitaux. On kidnappe les gens pour les emmener dans les forêts, les enfants pour les entraîner, leur apprendre les djihadistes. Quand ils reviennent, ils sont des islamistes et tuent toute personne qu'ils rencontrent.
Quant aux violences sexuelles contre les femmes, est-ce que aujourd'hui elles sont mieux prises en charge après avoir subi ce type de violence?
La prise en charge est organisée autour du ministère du genre, mais c'est avec les violences, avec les groupes armés qui sont un peu partout. Ce sont les gens qui sont à l'est dans les grandes villes qui arrivent à avoir les soins. Les groupes qui sont éloignés, parce qu'on les, il y a des femmes qui restent finalement avec des grossesses, qu'elles ne désirent pas. Ça fait des traumatismes, ça cause beaucoup de soucis dans la famille d'avoir un enfant qui vient d'un groupe armé, comme une fille qui a été avec sa mère, fille d'esclaves sexuels, une fille de 14 ans. Donc, elles ont été prises dans un groupe, elles ont été violées collectivement et donc elles sont sorties avec grossesse, elles ont accouché.
Dans ces violences dans l'est de la RDC, est-ce que l'on arrive à mieux lutter aujourd'hui contre l'impunité?
La guerre continue. La justice ne peut pas fonctionner normalement. Et les magistrats qui arrivent à faire leur travail normalement sont soit tués, soit menacés. Donc, c'est ça la situation. Donc, nous, les organisations, pour accompagner les femmes en justice, on a des cliniques, on a des avocats qui sont là pour accompagner les femmes dès qu'elles arrivent et si elles veulent aller en justice et on obtient quelques jugements. La question de la réparation reste difficile parce qu'il n'y a pas vraiment le paiement de la réparation, mais au moins on a des condamnations. Les auteurs sont condamnés, ils sont mis en prison, ils purgent leur peine et il y a d'autres qui gardent les prisons et qui sortent. On a la situation. Il faut qu'il y ait la paix, qu'il y ait la restauration de l'État pour qu'on arrive vraiment à lutter contre l'impunité.
Julienne Lucenguet, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'une des lauréates du prix Femmes de Courage du département d'État américain. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On vous dit à très bientôt et bon courage.
Ok, merci beaucoup.
En Espagne, le nombre de violences sexuelles sur les mineurs a été multiplié par 4 en 12 ans, selon le rapport d'une organisation de défense des enfants qui met en garde contre le rôle d'Internet. Selon la fondation ANAR, le nombre d'appels et de messages reçus de la part de victimes a bondi à 1093 en 2020 contre 273 en 2008. L'organisation estime que seuls 10% de ces mineurs se tournent vers la police pour porter plainte contre un ou des agresseurs. Près de 4 victimes sur 5 sont des filles. Les nouvelles technologies ont ouvert la voie à de nouveaux types de délits, indique la fondation ANAR, affirmant que l'accès facilité par Internet à la pornographie est responsable d'une hausse alarmante des violences sexuelles en groupe. La fondation ANAR alerte sur cette pornographie en ligne qui met en scène des situations où la femme est humiliée et maltraitée.
Mondo féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Lors de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars dernier, notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze, est allé à la rencontre de militantes féministes. Je vous propose de les écouter dans son reportage.
Il ne s'agit pas de festoyer ou de bamboula ou de pagne. Il s'agit de faire un état des lieux et les discours, les slogans.
Marie-Sylvie Hervois-Kenengue est une militante associative scandalisée par une série de commémorations des journées de la femme sans perspective.
Et il faut que la femme soit en position de décision. sur la table où la décision se fait tant que la méritocratie ne sera pas institutionnalisée dans mon pays. Ça donnera ça.
Une sorte d'invitation à la prise de conscience et au sens de l'engagement de la femme gabonaise pour ses droits, qui est soutenue par Georgette Coco. Elle est ancienne présidente du Conseil économique et social du Gabon.
Ce sont les droits que nous devons faire entendre. N'attendez pas que c'est les hommes qui le fassent à notre place. Nous sommes capables aujourd'hui de prendre notre destin en main.
Prendre son destin en main, c'est aussi et avant tout se battre pour son autonomisation, selon Sidonie Owe, ancienne procureure de la République.
Il se trouve qu'il s'agit des droits dans leur entièreté. Donc les femmes elles-mêmes doivent se sentir concernées par la question de l'autonomisation. Une autonomisation globale, se prendre en charge soi-même, question de volonté personnelle qui doit être soutenue par l'extérieur. Malgré tous les efforts venus de l'extérieur, si on n'a pas, on n'est pas motivé soi-même, ce sera vraiment un coup d'épée dans l'eau.
Même si des inégalités restent encore perceptibles dans la promotion des droits des femmes au Gabon, force est de reconnaître que de nombreux progrès ont été accomplis. Elles sont à la tête de prestigieuses administrations et institutions comme la Cour constitutionnelle, le Sénat ou encore la primature. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Entre parenthèses.
Le gouvernement burkinabé a mis à disposition de la population un numéro vert pour dénoncer les cas de violence faites aux femmes. Désormais, tout citoyen peut saisir les forces de l'ordre par appel téléphonique et sur un numéro gratuit lorsqu'il est témoin d'une situation de violence exercée sur une femme ou une fille. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré, nous en dit plus.
80-00-12-87, le numéro vert d'alerte et de dénonciation des cas de violence basés sur le genre au Burkina Faso.
Le Burkina Faso dispose désormais d'un numéro vert sur lequel tout citoyen peut appeler pour dénoncer des cas de violence faites aux femmes dont il est témoin. Il s'agit pour le pays de renforcer essentiellement la protection de la gente féminine contre toutes sortes d'agressions physiques, verbal et psychologique. En la matière, les lois ont toujours existé, mais le silence des victimes sauvait les coupables.
Pour pouvoir appliquer les dispositions de ces lois, il faut que les autorités politiques judiciaires soient au courant de ce qui se passe derrière les murs des familles.
Christophe Dabiré, Premier ministre du Burkina Faso.
Nous sommes tous interpellés. Il ne faudrait pas qu'on dise, oui, il y a des choses qui se passent dans notre pays, le gouvernement ne fait rien, mais il faut que le gouvernement agisse. S'il est au courant, nous avons donc le devoir tous de nous mobiliser pour lutter contre les violences basées sur le genre. Ce numéro vert existe, utilisons-le, c'est un pas positif que nous venons de poser dans la lutte contre les violences basées sur le genre.
Au Burkina comme ailleurs, les cas de violences faites aux femmes sont un secret de polichinelle. De l'avis de la ministre de la Femme de la Solidarité Nationale, Laurence Marshall-Ilboudo, il est temps de donner à la femme un outil qui puisse lui permettre de retrouver son intégrité.
Aujourd'hui, la législation burkinabée est forte et protège. Mais comment faire appliquer cette législation si vous ne dénoncez pas? Comment montrer l'exemple que ça ne se fait pas ici si vous ne dénoncez pas? Comment faire que nos femmes restent valides, productives si vous ne dénoncez pas?
Autant de questions qui doivent trouver leur réponse dans la mise à disposition de ce numéro vert. Les victimes elles-mêmes s'en serviront-elles? Sandrine Bado répond pas à la négative.
Il faut noter que les femmes battues ne sont pas toutes instruites. Donc elles ne savent pas en fait l'utilité que ce numéro-là peut avoir pour elles. Et du coup, elles vont rester dans leur coquille. Je sais très bien comment une femme violentée se comporte. Elle n'osera jamais appeler sous prétexte qu'il y a l'honneur de sa famille qui est en jeu.
Si tel est le cas, il reste encore des efforts à faire. Mais il revient surtout aux proches des victimes de faire usage du 80-00-12-87 afin qu'au Burkina Faso, une femme ne soit violentée à cause de sa condition féminine. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.